France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui...
Julia Faure, cofondatrice de la marque Loom et coprésidente du mouvement Impact France.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Elle s'appelle Sheila Begum. En 2014, cette ouvrière du textile bangladaise de 25 ans témoignait dans les pages du Monde sur la catastrophe du Rana Plaza du 24 avril 2013, qui a coûté la vie à 1138 personnes, essentiellement des jeunes femmes, et fait près de 2000 blessés. Sheila Begum fait partie des rescapés du drame. « Je travaillais au sixième étage dans l'atelier Essertex », raconte la jeune femme à la journaliste Nicole Vulser. Le bâtiment abritait de nombreuses usines confectionnant des vêtements pour des grandes marques occidentales de vente au détail. La veille, des fissures étaient apparues sur les murs, mais les employeurs avaient obligé tous les salariés à venir travailler. Tout s'est ensuite passé très vite, dit-elle. Je suis restée 16 heures avant d'être secourue. J'avais une énorme pierre sur le bras et le bas-ventre bloqué sous les décombres. La pire tragédie de l'industrie textile illustre avec horreur le mépris à l'égard de ces salariés du low-cost, des propriétaires d'usines de ce pays et de leurs donneurs d'ordre, les marques de mode occidentale ou les filiales de la grande distribution. Elle a aussi mis en lumière le coût humain et l'avidité non réglementée des multinationales et renforcé la nécessité de normes internationales relative aux entreprises et aux droits humains. Aujourd'hui, Sheila Begum ne peut plus se servir de son bras et la plupart de ses amis ont péri. Quelle est la valeur de nos vies pour les marques pour qui nous travaillons, demande-t-elle. Nous sommes incapables de gagner notre vie, nous sommes devenus des assistés et ce n'est vraiment pas ce que nous voulions. Bonjour Julia Faure.
Bonjour.
Ce drame, personne ne l'a oublié et pourtant nous portons tous encore des vêtements venant de ces ateliers où travaillaient des femmes comme Sheila Begum. Vous qui êtes la cofondatrice d'une marque de vêtements éthique dont la devise est « moins mais mieux ». Une lutte dans ce milieu très peu écologique du textile que vous menez sur plusieurs fronts. C'est l'occasion de découvrir votre histoire et les racines de votre engagement. Une histoire qui commence le 13 mars 1988 et voilà ce que l'on pouvait entendre ce jour-là. Là, dans le journal de France Inter.
Bonsoir. Nouveau succès pour le dernier tir d'Ariane. Il reste maintenant à pointer le satellite vers le soleil, déployer ses panneaux et l'orienter vers la Terre. 30 000 personnes sur la pelouse de Reuilly pour le rendez-vous d'SOS Racisme. L'égalité n'est jamais acquise, a souligné François Mitterrand, c'est toujours un combat. En pleine campagne présidentielle, Harlem Désir a demandé le programme antiraciste des candidats. Il a précisé, pour l'égalité, on attend plus. La remise des Césars lors de la 13e nuit du même nom hier soir aura au moins profité à deux vedettes du 7e art. D'abord à Louis Malle qui a totalisé 7 récompenses. Ensuite à Anémone, sacrée meilleure actrice de l'année pour son rôle dans Le Grand Chemin.
Anémone estime que les Césars sont injustes et dépassés. Comme les aristocrates, il faut leur couper la tête, aime-t-elle à dire. C'est probablement pour ça qu'elle est venue vêtue d'un uniforme de soldat de la Révolution française.
Merci d'avoir suivi ce journal.
Ce message est réservé aux professionnels de la mode.
Du 19 au 22 mars, Paris Nord vibre au souffle de la mode. Collection export, ligne boutique, jeunes talents. Paris Nord, c'est le salon de la dernière mode qui répond aux envies de toutes vos clientes. Donnez du souffle à vos affaires. Prenez le souffle de la mode.
Voilà, et la pub est intégrée au journal donc du 13 mars 1988, jour de votre naissance, Julia Faure. Petit journal concocté par Valérie Ayestari et Vincent Samuel de Lina. Qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre toutes ces nouvelles ?
J'ignorais tout ça. Je trouve ça très intéressant, le salon professionnel au Paris Nord. Parce qu'en fait, à cette époque, il y avait encore les accords multifibres. C'est-à-dire une réglementation qui protégeait l'industrie française contre les importations de vêtements à bas prix. Ouais. Donc c'était vraiment, c'était un autre monde quoi.
Ouais. On parle dans cette pub de l'envie des clientes, hein, vous avez entendu ça évidemment. Vous êtes née à Schittilgheim en Alsace, Julia Faure, vous avez passé votre enfance en Meurthe et Moselle. On aime bien connaître un petit peu l'environnement familial de nos invités pour comprendre toujours la source un petit peu de leur vie, de leurs engagements. Dans quel milieu vous êtes née exactement ?
Je suis née dans un milieu d'une mère prof d'anglais et d'un père ingénieur dans le traitement des eaux usées. Donc c'était un milieu plutôt aisé. Et voilà, dans l'Est de la France, j'ai un grand frère et une grande sœur. Et Franchement, c'était une famille aimante et plutôt. J'ai eu une bonne enfance, quoi, une bonne jeunesse.
Bourgeoisie, donc de l'est de la France, on peut résumer les choses comme ça. Vous avez toujours vécu en ville, hein? Vous avez eu une partie plus rurale?
Non, on vivait plutôt en zone rurale au début, à Marbache, pour ceux qui connaissent, en Lorraine. Et puis on s'est rapproché de la ville principale qui était Nancy au moment de mon lycée.
Et qu'est-ce que vous faites comme étude alors? Quel type de scolarité est-ce que vous avez?
Je suis plutôt une bonne élève et en plus je suis d'une famille avec un prof et ingénieur, donc il connaît très bien les codes de l'éducation et qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder aux bonnes classes, etc. Donc je suis très bien accompagnée par mes parents qui me disent de faire telle option pour être prise dans le bon lycée de centre-ville et ensuite qui me recommandent de faire prépa pour pouvoir aller faire l'école qui m'ouvrira le plus de portes possible. Donc j'ai...
Vous respectez tout ça ou pas?
Je pense que j'aimais d'autres envies, mais mes parents sont de bons conseils et très bien attentionnés. Et c'est plus tard que je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui n'ont pas ce cadre familial, qui connaît les codes du système éducatif et qui leur permet de naviguer dedans. Et que moi, j'ai été très chanceuse de ça parce qu'il y a d'autres gens qui avaient des compétences similaires aux miennes, qui n'ont pas pu avoir un parcours prépa grande école parce qu'ils n'avaient pas le cadre familial qui leur permettait d'aller aussi loin, quoi.
Donc pas d'insécurité particulière au fond.
Je pense que c'est peut-être aussi ça que ma famille m'a donné, c'est de la confiance en moi, enfin encadrement de la confiance en moi c'est de me laisser faire ce que je pouvais faire de mieux pour moi-même, quoi.
Est-ce qu'adolescente vous étiez une victime de la mode, Julia Faure?
C'était dur le collège.
J'aime bien la grimace sur votre visage.
Je me souviens.
Il y a presque un dégoût sur votre visage, c'est incroyable quand
même. C'était dur le collège. Enfin, la pression sur comment on s'habillait, c'était la pression des marques. Il fallait avoir des marques quand même au collège. Il fallait avoir des marques et c'était dur pour les familles qui n'avaient pas beaucoup d'argent parce que ça représentait quelque chose et les parents ne voulaient pas céder, quoi. Enfin, je pense que l'équivalent aujourd'hui, c'est la pression pour avoir un smartphone, quoi. Mais on devenait très rapidement ringard si on n'avait pas des marques. Donc je suppliais pour avoir des survêtements Lacoste, des Nike, des casquettes Adidas, tout ça, quoi.
Ouais. Donc vous aviez le total look, finalement, d'une adolescente de votre âge au début des années 2000, en fait, c'est ça?
Non, parce que mes parents étaient un peu snobs, donc ils ne voulaient pas me laisser... Ils voulaient pas vraiment me laisser m'habiller comme ça, donc il fallait toujours jongler entre les affaires qu'on récupérait, ce qu'on s'achetait avec son argent de poche et tout, mais non.
Le polo Lacoste et la casquette, ça faisait pas partie du...
J'ai eu un polo Lacoste.
Du dress code familial?
Tout le monde voulait s'habiller comme ça, et fait, au final, on avait toujours une ou deux fringues qui... Les parents cédaient toujours sur une ou deux fringues, mais on n'était jamais vraiment les plus cools du lycée, quoi.
Est-ce que l'écologie avait une place dans votre milieu familial? Parce que vous l'avez dit, votre père, donc, son travail consistait à traiter les déchets, c'est ça? Il s'occupait de dépollution?
Il gérait des stations d'épuration. Il concevait et gérait des stations d'épuration. Je pense que ça a mis quand même une ambiance dans la famille, qui est déjà l'eau est précieuse. On coupe l'eau en se lavant les dents, mais bon, je pense qu'en vrai, tout le monde le fait. Mais je dirais que la chose la plus importante, c'était plutôt l'idée que traiter les déchets pour les rendre réemployables, traiter l'eau pour la rendre réemployable, c'est un noble métier. Parce que les stations d'épuration, ça sent très mauvais, je ne sais pas si vous avez déjà été, quoi.
Non, jamais.
Et donc, sachez... Moi aussi, avec mon papa. Quand on voit son père qui travaille dans un endroit où ça sent très mauvais, on peut avoir un sentiment de honte. Et lui, il nous a très rapidement mis dans l'idée que non, c'était noble. Mon père nous disait que c'était noble de traiter les déchets, et ma mère nous disait que c'était noble l'enseignement. Ils étaient très prosélytes, finalement.
Ça, c'est les premières racines écolo, finalement?
Je pense que c'est l'ambiance familiale. C'était dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on n'était pas des gens dans l'Arzac qui faisions notre potager et qui étions en autonomie. Enfin, on avait un mode de vie assez urbain, pas particulièrement engagé, mais il y avait des valeurs de sobriété. On n'achète pas des choses qui servent à rien, on gaspille pas, et traiter les déchets, c'est quelque chose de noble.
Donc c'est plutôt un engagement intellectuel?
Ouais, c'est plutôt ça. Je dirais que plutôt c'était des écolos intello. Ouais.
Ouais, avec des figures de l'écologie, d'ailleurs, qui ont marqué la cellule familiale ou pas?
Oui, alors mon père a fait une école d'agronomie et il a été très marqué par René Dumont, par la candidature de René Dumont, qui était... je me rappelle qu'il m'en parlait quand j'étais petite, quoi. Donc c'est quelque chose...
Candidature
quand même
à l'élection présidentielle, donc en 74. Hein.
Exact.
Premier
candidat écolo. C'est un personnage qui revient quand même souvent dans le discours de mes parents. Enfin, je pense que eux, ça les a beaucoup marqués, en fait, dans leur jeunesse, quoi.
On va écouter sa voix, René Dumont.
Nous sommes les écologistes, un mouvement de libération, de contestation globale de la société. Nous sommes contre la destruction des ressources rares de la planète. Nous sommes contre le gaspillage de ces ressources contre la pollution qui devient insoutenable, contre l'excès de population qui amène cette pollution, contre la hiérarchisation de la société, contre la bureaucratie et l'ensemble des structures répressives de la société actuelle. Et nous introduisons pour la première fois l'utopie dans l'histoire de France.
1974, donc ça c'était la campagne pour l'élection présidentielle, la voix de René Dumont, et donc ce personnage qui se démarque un petit peu, hein, c'est ça, dans votre milieu, Julia Faure, même si à l'époque, au début des années 2000, René Dumont, personne ne le connaît, hein, j'imagine, dans la cour du lycée, c'est pas...
Non, c'est sûr, non, mais c'est pas non plus de lui que je parlais avec les copains dans la cour du lycée, parce que ça m'intéressait assez peu, hein. Vraiment, j'étais une ado assez centrée sur les copains, la fête...
Gaspillage et pollution, hein, les thématiques majeures à bord. Donc dans cette discussion. Vous aviez une idée précise de ce que vous vouliez faire en sortant du lycée ou pas ?
Non, j'ai mis beaucoup de temps à savoir ce que je voulais faire.
Est-ce que vous disiez j'ai envie d'être chef d'entreprise et travailler dans le textile un jour ?
Non, pas du tout. Je ne savais pas ce que je voulais faire et ça a été assez perturbant à la fin de mes études. Et en fait, je me rends compte que tous les choix que j'ai faits dans mes études, j'ai essayé d'être le plus généraliste possible et de fermer aucune porte, quoi. Mais donc, je suis sortie à la fin de mon école d'agronomie et... Je savais toujours pas ce que je voulais faire, quoi.
Vous faites quand même une école d'agronomie.
Je fais une école d'agronomie, ouais. Parce que j'adore la biologie. Enfin, ça, moi, j'ai adoré l'école, le collège, le lycée, la prépa, l'école d'ingénieur. Enfin, j'ai adoré apprendre tout ce que j'ai appris. Et en particulier, je trouve qu'il y a une matière, la biologie est une matière hyper particulière parce que, selon moi, elle est entre les sciences molles et les sciences dures, quoi. C'est-à-dire que c'est une science dure dans le sens où on étudie le fonctionnement complexe du vivant, comment ça marche une cellule, comment circule l'énergie dans un corps, pourquoi les plantes sont vertes, etc., etc. Et en même temps, c'est pas comme de la physique, c'est pas des équations, quoi. Il y a une partie sensible, presque littéraire dans la compréhension du vivant, quoi.
C'est pourtant pas ce que vous avez exploré, la biologie, finalement.
Non, c'est pas ce que j'ai exploré dans ma carrière, si on peut dire ça. On peut dire une carrière, ouais. Dans mes boulots, la matière biologie m'intéressait, mais je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait comme professionnellement exercé, c'est le business, ça m'a toujours intéressé, comme le fonctionnement des entreprises.
Donc c'était agro-paritech, hein, l'école,
ouais,
en l'occurrence. Donc vous étiez plus tech que agro, finalement, dans l'histoire.
J'étais plus business que agro, et effectivement, le monde de la culture me semblait... J'avais pas très envie d'aller bosser là-dedans, j'avais pas très envie d'aller bosser chez les fabricants de pesticides ou même dans le monde avec les agriculteurs parce que je trouve que c'était un métier très dur. J'avais pas envie d'aller bosser dans les gens de l'agroalimentaire, donc je me suis retrouvée à aller bosser vraiment à l'opposé de tout ça, quoi.
On va en parler dans un instant. Je voudrais juste qu'on écoute des étudiantes d'AgroParisTech qui avaient marqué les esprits en 2022 lors d'une prise de parole à l'occasion de la remise de leur diplôme.
AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs. Concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées. Ou encore compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Ces jobs sont destructeurs et les choisir... c'est nuire en servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech.
Nous nous adressons à celles et ceux qui doutent. À vous qui avez accepté un boulot parce qu'il faut bien une première expérience. À vous qui sentez un malaise monter sans pouvoir le nommer, qui trouvez souvent que ce monde est fou, qui avez envie de faire quelque chose mais ne savez pas trop quoi. Nous voulons vous dire que vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais nous refusons de servir ce système et nous avons décidé de chercher d'autres voies, de construire nos propres chemins.
Voilà, il faut le replacer dans le contexte, hein. C'est un jour de remise de diplôme, donc en 2022, et ces étudiants qu'on a appelés bifurqueurs ou bifurqueuses, hein, prennent la parole. Qu'est-ce que ça vous inspire, puisque ce sont des étudiants de votre école, votre ancienne école, Julia Faure ?
Alors, ça m'étonne pas que ça vienne de AgroParisTech, parce qu'il y a... Il y a une spécialisation dans cette école qui s'appelle Développement agricole, qui pendant longtemps a été tenue par Marc Dufumier, qui est un agronome assez connu.
Qu'on a reçu souvent à ce micro.
Voilà, oui. Donc sur l'agrobiologie, etc. Et donc c'est vraiment une formation, si vous faites cette spécialisation-là, c'est une formation qui vous ouvre les yeux sur le monde et sur les travers de l'agriculture intensive et de tout ce que ça entraîne, qui fait que c'est compliqué d'arriver avec innocence dans le monde du travail. Moi j'ai pas fait cette spécialité-là, donc ça met, cette prise de conscience est venue plus tardivement. Mais en fait je trouve qu'aussi ça montre un changement de génération. Moi, j'ai fini cette école 15 ans avant les jeunes qui parlent. Et l'état du monde n'était pas le même. la prise de conscience sur les réchauffements climatiques, ses conséquences visibles, même tout ce qu'on a appris sur les néonicotinoïdes, la chute de la biodiversité et tout, l'état de connaissance et la généralisation de cette connaissance n'était pas la même. Et donc, je me rends compte que j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir une jeunesse où j'avais pas cette anxiété et cette lourdeur sur les épaules, quoi. Quelle, effectivement, quelle responsabilité de sortir d'une école d'agronomie et de voir, en fait, que nos prédécesseurs ont participé à la destruction du vivant.
Quand ils disent on a senti monter le malaise, et c'est la raison pour laquelle justement on va bifurquer. Ça vous dit quoi, vous, Julia Faure?
Non, mais je trouve qu'ils mettent le doigt sur quelque chose de juste. Enfin, on est beaucoup à moi, dans mes premiers jobs, à être embauché par des structures qui ne permettent pas vraiment de remettre l'économie sur les bons rails, quoi.
Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que vous, la première grande entreprise pour laquelle vous avez bossé, c'est Amazon.
Oui, totalement. Ouais. Ouais.
Comment ça s'est passé, ça, en fait?
Moi, j'étais un peu paumée, hein, mais après mes études d'ingénieur, j'avais pas trop réfléchi à ce que je voulais faire après. Je savais ce que je voulais pas faire, bosser dans l'agroalimentaire, bosser dans l'agriculture, bosser en banque, et je savais que j'aimais le business. Donc je me retrouve à travailler chez Amazon, parce qu'à cette époque-là, cette boîte me semblait bien. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'époque où arrivent sur le marché des entreprises qui traitent bien leurs clients. C'est l'époque où Free arrive. Leurs clients, voilà. C'est l'époque où Free arrive, alors qu'on se faisait arnaquer par Free, Bouygues, etc. Et Free arrive et fait un forfait qui est pas cher, où c'est facile de changer, etc. Quoi. Et Amazon arrive en faisant ça aussi, en traitant extrêmement bien les clients. Et donc, moi, je me dis, ben voilà, c'est Amazon, c'est une boîte qui emploie localement parce que c'est des centres logistiques, donc elle peut pas aller faire produire au Bangladesh. J'avais été un peu traumatisée par le Rana Plaza. Et en plus de ça, elle traite bien les clients, ben, ça me semble être une boîte désirable pour aller travailler dedans. Et comme j'aime le business, ben, ça me semble très bien. Donc c'est vraiment, je suis arrivée, hein, la fleur au fusil, moi, chez Amazon.
Vous avez perçu rapidement les limites du système ou pas? Ou ça a mis un peu de temps?
Non, je suis restée 2 ans, je crois, dans cette boîte. J'ai fait mon stage de fin d'études et j'ai eu mon premier job. Mm-hmm. Et au début, c'était passionnant parce que j'apprenais plein de choses. Et puis à un moment, je me suis rendu compte de tout ce que ça produisait, cette entreprise. Notamment, Amazon négociait très fort les prix avec les gens qui vendent sur la plateforme. Et nous, c'était en Espagne, donc on négociait très fort les prix aux éditeurs espagnols. En fait, je me souviens qu'il y en a qui ont mis la clé sous la porte à force de nos négociations, quoi. Mmh. Et j'ai commencé à voir tous les travers de cette entreprise et je me suis rendu compte que finalement, oui, c'était une entreprise avec un business model exceptionnel, très intéressante sur l'efficience de ses process en interne. Mais c'était aussi une entreprise que plus elle se développait, moins c'était bon pour l'intérêt général, quoi. Et que je voulais plus mettre mon énergie dans ce genre de boîte.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Dans la mode, le critère premier, c'est le génie des mains. Hein, parce que si tu ne sais pas filer toi-même, tu ne pourras pas parler le langage de l'atelier. Mais si tu te lances dans la haute couture, le plus important, c'est de comprendre sa part d'éphémère, d'immatériel, sa beauté en soi.
C'est pas un peu facile de se réfugier dans l'art pour l'art et d'ignorer le monde qui nous entoure? On n'a pas tous le même rêve. Celui de ma génération, c'est de sauver ce qui reste de la beauté de ce monde.
Oh.
Le luxe nous place en haut de la chaîne alimentaire. Mm-hmm. Mais c'est un leurre. On fait partie de la chaîne. On la domine pas.
Extrait d'une série qui s'appelle La Maison sur Apple TV. Lambert Wilson, Zita Enro, Julia Faure, vous qui êtes notre invitée. On retrace avec vous les grandes lignes de votre parcours autour du monde de la mode éthique, du textile. Ce discours-là de cette jeune créatrice qu'on vient d'entendre dans cet extrait, on commence à le voir émerger, à votre avis, dans ce milieu ou pas?
Oui, de dire que la mode n'existe pas en soi juste pour faire de la mode, mais qu'elle a une responsabilité dans la crise écologique qu'on a. Oui, bah, moi j'ai l'impression qu'il émerge parce que...
Vous êtes dedans, vous.
Oui, je suis dedans et on est nombreux à être dedans. Et je pense qu'en fait...
Mais si vous mettez vos lunettes d'observatrice globale du monde du textile...
On parle beaucoup d'écologie dans le textile, mais l'industrie textile n'a jamais réduit son impact écologique depuis le début. Chaque année, l'industrie textile pollue un peu plus. En fait, c'est ça le constat et c'est aussi ça qui m'anime comme combat. Moi et plein d'autres, des marques et des usines françaises, quoi. On fait ce constat, c'est-à-dire que chaque jour qui passe, c'est de plus en plus les marques de fast fashion qui prennent des parts de marché. De plus en plus de vêtements sont produits et l'essentiel des vêtements qui sont produits et vendus en France sont fabriqués dans les pays qui sont moins disants socialement, donc les gens sont mal payés, mais aussi écologiquement. On va fabriquer là où c'est le moins cher, donc c'est aussi là où ça pollue le plus, on traite moins les les eaux usées, etc. Donc en fait, la mode parle beaucoup d'écologie et la mode n'a jamais autant pollué.
Donc bullshit.
Ouais, oui. On peut le dire.
Le discours est bullshit autour de l'écologie. Hein.
En fait, il est bullshit et en même temps, moi, je le comprends. Enfin, je le comprends dans le sens où il y a ce qu'on appelle, en fait, dans le monde économique, si vous êtes une entreprise, il n'y a pas d'intérêt économique à produire de manière plus écolo. C'est ce que nous, on appelle la primovis, c'est-à-dire l'avantage compétitif à mal faire. C'est-à-dire que si vous décidez de ne pas traiter les eaux usées qui sortent de la teinture, ça vous coûte moins cher. Donc vous êtes plus compétitif. Donc une fois qu'on comprend cette primovis, que finalement c'est plus coûteux, que ce n'est pas un avantage compétitif de faire bien, on comprend que toutes les marques essayent de tirer vers le bas les conditions sociales et environnementales, et que du coup, les marques qui sont leaders sur le marché sont celles qui ont les pires pratiques. Donc c'est bullshit dans le sens, il n'y a aucun intérêt à faire de la RSE, entre guillemets, mais ce qui est dur aussi,
c'est... Responsabilité sociétale des entreprises.
Il n'y a aucun intérêt à faire des efforts écologiques et sociaux quand on est une marque, parce que si on en fait, on risque de perdre des parts de marché. Mais ce qui est un peu hypocrite, c'est de demander des efforts individuels aux marques, alors que ce qu'il faudrait, c'est un cadre légal qui empêche, qui empêche d'aller produire dans des pays où les gens sont mal payés, qui empêche d'aller produire dans des pays où les eaux usées ne sont pas traitées. C'est ça qui manque, en fait.
On va y arriver, puisque la loi, elle est en discussion, là. Donc, c'est vraiment l'actualité très chaude, on va en discuter dans quelques instants. Il faut quand même rappeler qu'en 2017, vous commencez l'aventure Loom, donc cette marque de vêtements française qui s'est donnée comme mission de changer l'industrie textile en incitant ses clients à acheter moins. Est-ce que c'est un concept qui est enseigné dans les écoles de commerce?
Ça commence, c'est assez marrant.
C'est vrai
les gens qui font de la recherche en marketing, ils adorent les nouveaux concepts et je pense
C'est totalement contre-intuitif quand on fait du commerce.
C'est contre-intuitif. En vrai, on n'est pas les premiers à faire ça. Enfin, je veux dire, si vous achetez un frigo, la marque qui vous promet le frigo qui dure le plus longtemps possible, y a moyen que ça soit celle que vous préfériez, quoi. Et dans le vêtement, ça existait avant. Enfin, je veux dire, à l'époque, quand les vêtements étaient encore produits en France et qui coûtaient assez cher.
Donc ça peut être un argument publicitaire, finalement.
D'ailleurs, Patagonia s'est rendu célèbre avec une pub où ils montraient leur blouson un peu réparé. Et le sous-titre, c'était « Don't buy this jacket ». N'achetez pas cette veste, sous-entendu, réparez-la, etc. Faites-la durer. Donc on n'est pas novateur dans ce sens-là. Par contre, on est minoritaire.
Il
n'y en a vraiment pas beaucoup.
Ouais. Mais vous reprenez cette philosophie au fond ?
Oui, tout à fait. Ouais. Oui, en fait, les vêtements, on reprend cette philosophie parce qu'on est arrivé dans un paradigme de l'industrie textile qui essaie de nous faire acheter toujours plus. Comment cette industrie s'y prend ? En nous proposant des vêtements pas chers, et ça, on obtient des bas prix en allant produire dans des pays moins disant socialement et écologiquement, et en nous incitant à consommer à travers une multitude de stratégies. Avoir beaucoup de choix, avoir de la nouveauté en permanence, avoir des promos, avoir des facilités de paiement, etc. Et donc en fait, c'est cette stratégie de l'industrie textile pour nous vendre toujours plus, c'est celle qui nous emmène droit dans le mur. C'est elle qui a fait exploser la pollution du textile, parce que, en fait, un vêtement, même s'il est fait de manière écolo, même si vous faites attention, produire un t-shirt, ça pollue. Produire, c'est polluer. Et comme cette industrie se dédie à produire et vendre toujours plus de vêtements, elle fait exploser sa pollution en même temps.
Et vous-même, en produisant du textile éthique, vous polluez quand même ?
Bien sûr. En fait, je pense qu'il faut avoir en tête ça. À chaque fois qu'on produit quelque chose, à chaque fois qu'on consomme quelque chose, même si c'est un service, même si c'est une requête sur ChatGPT, ça pollue. Et c'est pour ça que nous, on ne croit pas à un solutionnisme technologique. On pense pas qu'il faut produire autant, mais produire avec du recyclé. On croit à la sobriété. Il faut produire et consommer ce dont on a besoin, et ce dont on a besoin, on doit le faire durer le plus longtemps possible.
Donc ça veut dire que vous posez des limites aussi à votre business model, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que vous n'allez jamais être une immense marque richissime avec des enseignes et des pas-de-porte absolument partout. C'est pas le but non plus
c'est
pour
pas,
vous.
Non, c'est pas ça qui me fait rêver. En fait, je crois aussi que le bonheur vient aussi de se satisfaire de peu, et j'ai pas besoin d'être à la tête d'une multinationale pour être heureuse. Par contre, je crois que l'industrie textile éthique doit se développer. Je crois que le Made in France doit se développer. Moi, je ne suis pas persuadée que ça doit être une marque qui se développe et qui prenne tout le marché. Je crois plutôt à l'écosystème, à plein de marques différentes qui proposent des styles différents, des approches différentes, des formes et des coupes différentes, et que c'est cet écosystème qui serait vertueux.
Votre marque, c'est aussi un blog, Le Monde à l'envers, avec des décryptages sur l'industrie textile, mais aussi des conseils pour entretenir les vêtements. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une démarche de plaidoyer aussi pour les clients ?
Il y a une démarche d'information. Nous, ce qu'on fait comme constat, parce que moi j'ai monté cette marque avec mon associé Guillaume Declerc, on réfléchit à beaucoup comment on fait changer le monde de la mode, hein, parce que on fait le constat qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et je pense qu'il y a quand même une première étape, c'est avoir l'information et les décryptages accessibles sur sur vraiment notre industrie. Et en fait, nous, on a quand même accès à des choses de l'intérieur. Par exemple, savoir que même si les gens vous disent que c'est produit dans des super usines au Bangladesh, les femmes qui travaillent dans ces usines sont payées environ 100 euros par mois, et que 100 euros par mois, c'est vraiment ridicule. C'est un quart de ce qu'il faudrait gagner pour vivre dignement. Bon, bah, toutes ces informations qui permettent de mieux comprendre en fait, le monde du textile, elles ont besoin d'être mises à disposition, à la fois pour que ben, nos clients ou même les gens qui s'intéressent au sujet s'en emparent, mais également pour que ben les prescripteurs comme les journalistes, les législateurs et tout puissent avoir accès à une information fiable ben, pour pouvoir faire les bons diagnostics et les bonnes lois qui en découlent.
Le milieu du vêtement en France, il est dans une posture délicate là en ce moment ?
Oui, c'est la catastrophe. En fait, cette course en avant à vendre toujours plus, elle a commencé à favoriser des modèles d'entreprise au début la fast fashion, hein. Au début c'était les Zara et H&M, et ces modèles sont devenus, ont commencé à avoir des pratiques de moins en moins vertueuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au début, c'était les bas prix, puis les bas prix et les promos, puis avoir de plus en plus de références, puis avoir de plus en plus de nouveautés, puis avoir des milliers de nouveautés par jour, puis acheminer les vêtements par avion pour que ça vienne plus vite, puis remplacer le coton par du polyester, puis abandonner le coton bio. En fait, c'est cette course en avant de l'industrie textile produit des enseignes qui ont des pratiques désastreuses, et toutes les enseignes qui ont des pratiques un peu moins mauvaises disparaissent. Et c'est comme ça qu'on a Chine qui explose et Camailleux qui a disparu.
Enfin, donc il y a une hécatombe sur les marques de gamme moyenne, en fait.
Il y a une hécatombe vraiment sur tout ce qui est entre le low cost et le luxe. Ouais.
Est-ce que votre meilleur allié aujourd'hui pour lutter contre la fast fashion, ça serait pas Donald Trump ? Avec les taxes qu'il est en train d'imposer à la Chine, et à Chine d'ailleurs par voie de conséquence, puisque c'est la fin du privilège douanier sur les petits colis. Trump est en train de torpiller des marques comme Chine et Temu, deux plateformes qui ont fait leur succès justement en profitant d'une exemption sur les droits de douane. Donc ça, il fait sauter. Est-ce que finalement, ça ne va pas être aussi une entrave pour ces marques qui se déploient dans le monde entier ?
Non, au contraire, je pense que ce qu'il va faire, c'est que ces marques vont se concentrer surtout sur le marché européen, parce que c'est nous l'autre gros marché de vêtements. Et je pense que s'il doit y avoir un protectionnisme, et je pense qu'il doit y avoir une forme de protectionnisme pour protéger l'industrie française.
Donc le Made in France dont vous parlez.
Oui, le Made in France et les industries françaises, ça doit être un protectionnisme qui est basé sur des critères sociaux et écologiques. On doit favoriser la production dans les endroits où elle est faite le mieux possible pour les gens et pour l'environnement. C'est sur cette base-là que doit être le protectionnisme, et pas un protectionnisme qui remet des barrières et qui, en fait, on est presque... On veut pas que le protectionnisme se transforme en guerre. On veut que ça se transforme en une amélioration des conditions sociales et environnementales dans tous les pays qui produisent.
Et donc, c'est pas du tout une façon d'affaiblir des grandes marques comme Chine ou Temu ?
Non, je pense
que... De les surtaxer
Si nous, on le fait aussi, quoi. Il faudrait que tous les marchés le fassent, mais est-ce que le but, c'est d'affaiblir des grandes marques ? Est-ce que le but, c'est d'affaiblir certaines marques, précisément ? Ou est-ce que le but, c'est de changer les pratiques des marques de mode ? Moi, je veux pas viser une entreprise ou une autre. Si Chine meurt, il y en a une autre qui va arriver, et si elle est pas chinoise, on pourra pas la taxer pareil. Si elle produit en Turquie, c'est pas beaucoup mieux. Moi, ce que je veux, c'est que toutes les marques du secteur pivotent vers des modèles qui sont plus vertueux. Et pour ça, ça ne sert à rien de cibler des gens, ça ne sert à rien de faire des taxes seulement sur un pays.
En mode climat, dont vous faites partie, c'est 600 marques et industriels qui adhèrent à cette anti-lobby qui veut changer les lois pour une industrie textile plus juste et moins polluante. Est-ce que vous traquez au sein même, d'ailleurs, dans mode climat, le greenwashing dans cette coalition ou pas ? Parce qu'il peut y avoir une tentation, évidemment, de s'abriter... auprès d'un groupe comme ça.
Au début, quand on a créé en mode climat, on s'est dit comment on fait s'il y a des gros comme Primark, Kiabi ou Decathlon qui veulent rentrer chez nous. Est-ce qu'on est sûr que ce ne sera pas du greenwashing et tout ? Ils n'ont jamais voulu rentrer chez nous, parce qu'il faut savoir ce que c'est le but du collectif. Le but du collectif, c'est des lois qui contraignent notre secteur de manière à ce que l'industrie textile fasse sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et ça implique une baisse des volumes de production et de consommation de vêtements. Et ça, il n'y a aucun des géants de la fast fashion ou du low cost qui a jamais voulu s'allier à notre plaidoyer.
Julia Faure, le secteur de la mode du luxe en France, ça pèse très lourd, évidemment, avec une philosophie, on en a un peu parlé, basée sur le renouvellement permanent des collections, la force de frappe publicitaire, là aussi, qui est énorme, une industrie qui travaille aussi pour maintenir l'appétit des consommateurs en permanence, donc c'est ce modèle-là qu'il faut changer, mais c'est aussi une industrie qui est pourvoyeuse d'emplois, donc comment on répond aussi à ça ?
Alors, il y a un truc hyper intéressant, c'est que plus on consomme de vêtements, plus on détruit de l'emploi en France.
Et pourquoi ?
Première chose, c'est que la fast fashion, elle elle nous permet d'offrir des bas prix parce qu'elle produit, elle ne produit plus en France. Vous ne pouvez pas avoir un t-shirt à 10 euros s'il est fabriqué en France, c'est impossible. Ou alors vous faites travailler des esclaves. Donc, pour obtenir des bas prix, on délocalise. Donc, on a perdu tellement d'emplois dans l'industrie, et en particulier dans l'industrie textile, ça se compte en centaines des milliers, et l'hécatombe continue. Enfin, je veux dire, on continue à perdre de l'emploi dans l'industrie textile. Et l'autre truc intéressant, on pourrait se dire, oui, ok, on perd des emplois dans l'industrie, mais on en gagne dans les services, dans le commerce, quoi. Puisqu'on vend plus de vêtements, il y a plus de vendeurs. En fait, pas du tout. On est en train d'aller dans un système où il y a de moins en moins de personnes qui nous vendent de vêtements. De plus en plus de e-commerce, mais même là, les plus gros vendeurs de vêtements, c'est ces énormes magasins où il n'y a presque pas de vendeurs. Les Kiabi, les Decathlon ou même Leclerc, qui est un très gros vendeur de vêtements, en fait, les vendeurs sont remplacés par des personnes en caisse, voire des caisses automatiques. Mmh. Donc paradoxalement, plus on vend de vêtements, plus on détruit en plus, on détruit de l'emploi dans les services et dans le commerce. Et en fait, si on réfléchit, c'est assez logique. Si vous vendez un t-shirt 5 euros, il n'y a pas la marge suffisante pour payer une production propre, ni pour payer quelqu'un qui vous vend ce t-shirt.
Et ce milieu de la mode, cette frivolité au fond qu'on vient de décrire, ce milieu qui n'est jamais rassasié et qui fait défiler plusieurs fois par an dans les plus beaux lieux des mannequins qu'on voit par exemple dans les rues de Paris au moment de la fast fashion, ça vous inspire quoi ? Comment vous percevez en fait ce milieu-là, qui est pourtant un peu le vôtre, mais qui n'est quand même pas du tout votre philosophie ?
Oui, ouais, les marques qui défilent, les vraies marques de mode, haute couture, etc., en fait, moi, j'ai pas de problème avec la frivolité. Je trouve que c'est un peu la question de l'art, quoi. Enfin, je comprends qu'il y ait des créateurs et je comprends que le vêtement, c'est quelque chose d'important et qu'on a envie d'être beau et qu'on a envie d'avoir de la créativité là-dessus. Mmh. Et je pense que ça, c'est possible de conserver ça tout en maintenant notre industrie dans un cadre qui respecte les limites planétaires.
Vous pensez qu'on peut maintenir la haute couture française, par exemple, en maintenant les limites planétaires ?
Ouais, bien sûr. En fait, ça, on a réussi par le passé. Enfin, je veux dire, c'est la créativité dans le vêtement, elle est extrêmement vieille. Ouais. Il y a toujours eu un effort pour s'habiller. Enfin, je veux dire.
Sauf que ces marques, elles organisent des défilés aux quatre coins du monde.
Sûr,
elles
hein.
invitent leurs clients aussi dans le désert pour aller voir défiler quelqu'un. Enfin, on voit des pratiques qui sont complètement hallucinantes.
Telle qu'elle, bien sûr. Il va falloir changer drastiquement ces pratiques. Et parce que actuellement, on produit plus de la beauté ou de l'art. On produit du désir pour pouvoir ensuite vendre des milliers de vêtements.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Ce savoir-faire exporté en Chine, où le coût du travail est moins cher, avait disparu de France. Depuis 2 ans, la relocalisation dans l'Eure a créé une trentaine d'emplois. Peu consommateurs d'eau et de produits phytosanitaires, le lin et le chanvre sont reconnus pour leur impact environnemental plus faible que le coton notamment. Grâce à ce fil tissé ensuite dans le Nord, l'objectif est de proposer une offre 100% française à l'industrie textile, plus chère mais plus durable.
Reportage France 3 Normandie en mars 2024. Julia Faure, chef d'entreprise dans le textile, vous êtes notre invitée au carré. La France, pendant longtemps, avait un vrai savoir-faire en matière justement textile avec des usines spécialisées dans pas mal de choses. Hein. Le tissage, vous qui avez vécu près des Vosges, la filature, la bonneterie. On a perdu ce savoir-faire là, aujourd'hui ou pas ?
On ne l'a pas complètement perdu parce qu'il reste quand même quelques maillons de la chaîne industrielle textile. Donc il reste quelques tisseurs, quelques filateurs, mais on en a perdu des maillons. Par exemple, on ne sait plus faire de teinture indigo qui est la teinture de jean. Donc ça,
il y a un enjeu aujourd'hui justement à retrouver ces savoir-faire dans notre pays.
Ah mais c'est clé. En fait, il y a un enjeu déjà à ne pas laisser disparaître ces derniers maillons. C'est vraiment là, les industriels français sont exsangues. Ils sont vraiment, ils luttent quoi. Enfin, c'est vraiment, on a un risque de voir disparaître les derniers maillons. Donc il faut d'ailleurs maintenir ces maillons parce que c'est beaucoup plus difficile de refaire pousser une forêt si tout a brûlé que s'il reste quelques pousses. Et surtout, il faut les développer. Enfin, à l'avenir, ça n'a aucun sens de faire fabriquer à l'autre bout du monde des vêtements alors que c'est très facile de fabriquer localement, c'est pas très intensif en énergie, en infrastructure, etc. La relocalisation, en tout cas la relocalisation d'une partie de nos vêtements, de la production d'une partie de nos vêtements, elle est nécessaire si on veut atteindre nos objectifs climatiques.
Et pour Loom, votre marque, vous arrivez à tout faire en France vraiment ou pas ?
Oh non, non, loin de là. On fait beaucoup au Portugal, mais on fait tout ce qu'on peut en France.
Ouais.
Mais on a deux problèmes. Alors déjà, c'est plus cher de faire en France qu'au Portugal, à la fois pour une question de salaire, mais aussi pour une question de plus vous perdez votre industrie, moins elle est efficiente, et plus ça te coûte cher de faire dans une industrie qui est moins efficiente. Donc c'est plus facile de faire au Portugal parce que c'est plus facile de faire de la qualité là-bas. Leur industrie textile est très dynamique et c'est aussi moins cher. Mais tout ce qu'on peut faire en France, on le fait. On fait nos chaussettes, nos ceintures, nos bonnets, nos écharpes.
Est-ce qu'il y a, des pays comme la Chine avec lesquels vous êtes obligé de travailler quand même ou pas?
Non. Mais parce qu'on ne fait pas de vêtements techniques. On a essayé de faire une parka, par exemple. Mmh. Et en fait, on s'est rendu compte que si on voulait le faire éthiquement, enfin, c'est-à-dire le faire produire en Europe, ça, elle allait sortir à des prix où on n'allait pas arriver à la vendre. Mmh. Donc là, aujourd'hui, si vous voulez faire des vêtements techniques ou de sport, c'est pas évident de les faire en Europe, quoi.
Jules Lafort, l'année dernière, vous avez pris la tête avec le président de la Maïf, Pascal Demurger, le mouvement Impact France. C'est une association qui regroupe des entreprises à impact social et écologique, surnommée le MEDEF des entreprises engagées. C'est l'alternative de gauche aux organisations patronales traditionnelles ou pas ?
Je pense pas qu'on se définisse de gauche. Enfin, d'ailleurs, on se définit pas de gauche. C'est la particularité de notre mouvement patronal, c'est qu'on veut réconcilier l'intérêt général et la performance économique.
Ce que ne font pas du tout les entreprises françaises pour vous aujourd'hui ?
Ce que ne fait pas le MEDEF. C'est pas ça qui... Le MEDEF défend la performance économique, point. Et suppose un ruissellement ensuite sur l'intérêt général. Nous, on pense qu'il faut contraindre, qu'il faut mettre un cadre aux entreprises pour être sûr qu'elles s'assurent de l'intérêt général en même temps qu'elles servent, qu'elles servent leur performance économique.
Lors de l'université d'été, donc en août dernier, vous avez déclaré que la voix des entrepreneurs était mal représentée en France et que vous étiez là pour défendre un regard progressiste et moderne. Quelles sont vos propositions pour secouer donc, et pour ringardiser le MEDEF ?
Non, c'est pas mon but. Moi, je suis pas là pour ringardiser le MEDEF. Mais par exemple, quand le MEDEF s'est opposé à la directive pour le devoir de vigilance, qui était une loi qui arrivait après le Rana Plaza, en fait, pour éviter que d'autres catastrophes comme ça arrivent, quand le MEDEF s'y oppose, ben moi, je trouve que c'est une trahison de l'industrie française et des usines françaises. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus motivant pour les marques d'aller produire en France que de risquer d'avoir un procès s'ils vont produire dans des pays qui sont moins disants socialement et écologiquement. Donc je trouve que le MEDEF qui est censé représenter l'industrie textile du Made in France l'a mal fait et c'est en ça que je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et donc votre mouvement, il y a combien d'entreprises aujourd'hui avec Impact France ? Il y a combien d'adhérents ?
Je pense...
On parle de 15 000 adhérents.
Ouais, un peu plus, je crois.
Un peu plus maintenant.
Ouais. C'est à peu près ça.
190 000 pour le MEDEF. 230 000 pour la Confédération des petites et moyennes entreprises. Ouais. Donc vous avez encore un petit peu de chemin pour devenir grand. Et pourquoi faire d'ailleurs ? Pour influencer les politiques publiques ? Vous avez envie de négocier des accords avec les syndicats ? C'est ça aussi cette idée d'une formule plus progressiste et différente ?
En fait, nous, on fait juste le constat que l'économie actuelle... elle va pas dans le bon sens. Elle détruit l'environnement, ça, il y a pas à dire, mais elle détruit aussi les gens. Enfin, vraiment, là, il y a quelques rapports qui sont sortis sur le mal-être des gens au travail en France, qui est inquiétant. Et en fait, si on détruit nos gens et notre environnement, on détruit les ressources qui sont, en fait, clés pour le futur de l'économie française. Je parle même pas d'intérêt général ou de morale. Ça me semble être une vision court-termiste. Et donc, il faut faire évoluer cette vision, et c'est la mission qu'on se donne avec Impact France, ouais.
C'est un rôle très politique, au fond. Ça vous plaît, ça ?
Ouais, c'est très politique. Je trouve ça très intéressant.
Vous vous découvrez politicienne, d'ailleurs, ou pas ?
Pas dans ce sens... moi, je veux pas être élue. Enfin, je suis élue par des entrepreneurs, quoi, mais ça me donne pas envie d'être députée ou ministre. Mais je trouve intéressant d'avoir un rôle dans la vie de la cité et de comprendre qu'on n'est pas seulement chef d'entreprise ou prof, etc., qu'on est aussi citoyen et qu'en tant que citoyen, on a des compétences et une vision du monde qui nous permettent de donner notre avis et d'exprimer notre voix qui peuvent changer le cours des choses. Et ça, je trouve que c'est très réjouissant. En tout cas, c'est un bon remède à la dépression.
Ah oui ?
Bah ouais.
Bon, bah si ça peut servir à ça, tant
mieux. Le remède à la dépression, c'est l'action.
Ouais. Et l'engagement, donc. Hein.
Ouais, enfin, pour moi, enfin, je veux dire, si vous êtes un peu lucide sur ce qui se passe dans le monde, et je parle juste de l'industrie textile, en termes de catastrophe écologique, mais en termes de catastrophe sociale, enfin, c'est...
Et
c'est...
rencontrer des hommes ou des femmes politiques, c'est un bon remède à la dépression aussi, quand on veut défendre un sujet comme le textile en France.
Écoutez, il y a de tout. Il y a vraiment des... Moi, par exemple, j'ai rencontré pas mal de députés dans le cadre de la loi Fast Fashion, et je pense notamment à la députée Anne-Cécile Violent qui porte cette loi. Et je suis très touchée de rencontrer des députés qui ont à cœur l'intérêt général, qui comprennent en fait qu'il est urgent de réguler la Fast Fashion. Et on rencontre aussi des politiques qui nous mènent en bateau, quoi, et qui s'en moquent de l'intérêt général. On en rencontre même qui sont... à la limite de la corruption, là. Christophe Castaner, ancien ministre, qui se fait recruter par Chine, la marque d'ultra-fast fashion... Ça, oui, ça, je comprends qu'il y ait une partie de la population ait un peu des doutes.
On va l'écouter, Christophe Castaner, vous nous tendez justement la perche. C'était sur BFM TV au début de l'année, là.
Si la décision qui est prise, c'est de considérer qu'il faut faire payer plus en taxant les produits pour les plus populaires, je pense que c'est une erreur. Moi, je ne fais pas partie des gens qui veulent interdire ou taxer. Je fais partie des gens qui disent qu'il faut transformer nos modèles, il faut les améliorer. Et donc, agissons pour cela. Et ne cherchons pas à opposer les uns aux autres. C'est vraiment un réflexe de fainéant de considérer que quand il y a un problème, il faut faire une taxe.
Voilà, Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur dans le gouvernement d'Édouard Philippe, et aujourd'hui chez Chine, au sein du comité responsabilité sociale et environnementale. Comment vous réagissez à ce qu'il vient de dire, là, taxer, ça sert à rien?
Ça me rend fou. Enfin, vraiment, ça me rend folle. Parce que, en fait, c'est vraiment en fait, les éléments de langage de l'ultra fast fashion mis dans la bouche d'un ancien, d'une ancienne personne qui a été au service de la France, quoi. Et en fait, il se trouve que justement, cette loi, elle est là pour orienter les pratiques des entreprises. Mais franchement, qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive à la France pour que M. Castaner considère que c'est urgent d'agir? Il faut qu'il n'y ait plus du tout d'industrie textile? Il faut qu'on ait perdu encore des centaines de milliers d'emplois? Tous ces gens-là qui appellent à la modération alors qu'il y a des boîtes qui sont en train de crever, il y a des gens qui perdent leur job, ça me rend fou. Et en plus, c'est vraiment, c'est tous les éléments de langage des lobbies qui recrachent. Je trouve ça dégueulasse.
Vous l'avez rencontré, Christophe Castaner,
non,
ou pas?
Non, je ne l'ai pas rencontré. Non, je ne l'ai pas rencontré. Enfin, il a pas... Je ne sais pas s'il sait qui je suis.
Qu'est-ce que vous lui diriez si vous étiez face à lui, là, aujourd'hui?
Oui, mais moi, ce n'est pas à M. Castaner que je veux parler. Enfin, c'est pas, de toute manière, il n'est plus élu de la nation. Ce n'est pas lui qui fait les lois. C'est un lobbyiste de Chine. Ce n'est pas lui que je veux convaincre. Je m'en fous, en fait. Il ressort... il est payé très, très cher pour dire ce qu'il dit. Bon, bah, très bien qu'il le fasse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens. C'est les gens qui travaillent dans le textile. C'est les gens qui ont tout à gagner avec une régulation de la fast fashion. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi les intérêts de la France. Enfin, aujourd'hui, le déficit commercial de la France à cause du textile, c'est des milliards d'euros chaque année. Enfin, se dire économiquement, écologiquement et en termes d'emploi, la France a tout intérêt à réguler la fast fashion. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la France.
Il y a une actualité, c'est cette loi contre les effets négatifs de cette mode qui sera examinée le 2 juin au Sénat, loi très attendue pour l'industrie textile française et les associations, qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale en mars 2024, mais qui a été repoussée avec la dissolution. Le texte donc sera voté le 10 juin, il sera revu par les sénateurs. Il a déjà été revu par les sénateurs, et ça fait bondir les associations environnementales d'ailleurs.
Pas que les associations environnementales, hein, les mouvements, en tout cas, toutes les entreprises qui attendaient beaucoup de cette loi. Ouais. Je vous rappelle, on est dans un état d'urgence pour le secteur textile, et les marques et les usines attendent une loi qui freine le modèle économique de la fast fashion.
Donc ça, c'est votre combat là en ce moment?
Ça, c'est le combat, et ça devrait être le combat de tous les gens du textile, et de tous les sénateurs, s'il y en a qui nous écoutent.
Alors comment on combat en ce moment, dans ce contexte où un sujet aussi sensible est étudié par les sénateurs?
En fait, il y a eu une première version de la loi qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, et qui était une version très ambitieuse, parce qu'en gros, elle faisait deux choses. Une interdiction de la publicité pour les marques qui ont des pratiques de l'ultra fast fashion, comme Chine et Temu, c'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup, beaucoup de références sur le marché, et des bonus-malus indexés sur l'impact environnemental des vêtements. Et l'intérêt, c'est que ces bonus-malus n'étaient pas payés par le consommateur, mais c'était un peu des primes-pénalités appliquées aux entreprises. Et ce système de bonus-malus permettait de favoriser les entreprises qui fabriquent en France, les entreprises qui utilisent du coton bio, et de pénaliser les entreprises qui ont des pratiques de la fast fashion. Parce que la fast fashion, c'est plein de pratiques différentes. C'est acheminer les vêtements par avion, c'est utiliser du polyester, c'est inciter à consommer, etc. Donc on avait une loi bien robuste, qui demandait à être peaufinée. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des choses à réécrire, etc.
Et là, elle est détricotée.
Et là, vraiment, elle a été amendée par une commission du Sénat. Et en fait, telle quelle, cette loi, non seulement elle ne permettra plus de soutenir le Made in France, non seulement elle ne permettra plus d'encourager les bonnes pratiques des entreprises, mais surtout, probablement, elle va être... son but, c'est de ne viser uniquement Chine, parce que la fast fashion française ne veut pas être touchée. Mais probablement, cette loi, elle va même pas toucher Chine, parce qu'elle va être facilement contournable.
Comment vous expliquez justement qu'on soit passé d'un premier texte à ce qui risque d'être discuté là dans quelques jours?
Alors moi, je pense qu'il y a une volonté politique de ne pas pénaliser la fast fashion, c'est de pénaliser certaines entreprises. Les gens veulent pas pénaliser la fast fashion française, par exemple. Le gouvernement ne veut pas pénaliser la fast fashion française, ils veulent pénaliser que la fast fashion, que les Chine et Temu. Sauf qu'il y a des pratiques de la fast fashion française qui sont les mêmes que Chine et Temu. Et donc, en essayant un petit peu de diminuer l'ambition de la loi, non seulement c'est injuste, mais en plus, on la vide complètement de son contenu.
Ouais, mais qui permet justement cette diminution de l'ambition de la loi?
Ça, moi, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans les coulisses.
Il y a des lobbies à l'œuvre.
Ah bah bien sûr. Là, dans cette loi, il y a vraiment un bingo de lobbies qui ont agi. Il y a le lobby de la publicité parce qu'il y avait une interdiction de la publicité qui a dit oh non, ça c'est pas possible. Ouais. Le lobby des plateformes type Zalando, VP, etc. qui a dit non, on peut pas mettre de pénalité sur le nombre de références parce que eux-mêmes mettent un nombre de références hyper important sur le marché. Et puis il y a le lobby de la fast fashion et du low cost français qui a dit oh non, pas des bonus malus sur les pratiques de la fast fashion parce que ben nous on a un peu des pratiques comme ça en fait.
Mais cette loi qui arrive, on risque de passer complètement à côté alors ?
On risque de passer totalement à côté si elle n'est pas réécrite. Après, il manque pas grand-chose.
Il y a encore un espoir de la réécrire ?
Bien sûr. Non. Et je pense même qu'on peut y arriver parce que moi, je crois quand même qu'il y a un grand nombre de politiques qui ont à cœur l'intérêt général de ce pays, qui ont à cœur les intérêts économiques de la France et qui ont à cœur de préserver notre industrie française et les emplois qui vont derrière.
Donc votre boulot jusqu'au 10 juin, c'est quoi ?
Mon boulot jusqu'au 10 juin, c'est de convaincre les sénateurs de modifier le texte de loi, de remettre les bonus-malus indexés sur la fiche environnementale, de redonner de l'ambition sur l'interdiction de la publicité pour qu'on ait une loi qui change vraiment la vie des marques et des usines françaises.
Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines années, Julia Faure, hein ? Si on se projette un petit peu dans 10 ans, on risque de vous retrouver
où ? En fait, alors déjà, si la loi passe de manière ambitieuse le 10 juin, je vais faire une énorme fête.
Ouais, ok, donc ça c'est court terme.
Et après je prends ma retraite. Après j'aurais fait ce que je devais faire dans ce monde, je sais pas.
Ah, ok.
Non, mais je continuerai de gérer ma boîte, j'aime bien moi ça, j'aime être chef d'entreprise.
Merci beaucoup d'être venu au micro de La Terre au Carré, vous étiez notre invité aujourd'hui. Et on se quitte comme tous les jours avec vos messages à le répondeur.
Salut La Terre au Carré, c'est Vincent Crémer de Bertrand dans les Hautes-Pyrénées. Je vous appelle parce que je suis plutôt contre la chasse, mais je discute avec mon voisin qui, tous les après-midi, va dans la forêt entretenir nos chemins de promenade. Il remarquait qu'il y a de moins en moins de jeunes arbustes qui arrivent à pousser. On se retrouve qu'avec une forêt de hêtres. Et selon lui, la faute au fait qu'il y a trop de gibier et plus assez de chasseurs. Moi, je me posais la question, comment faire pour qu'il y ait un juste équilibre dans nos forêts, hormis le loup, bien sûr. À bientôt.
Bonjour La Terre au Carré, c'est Marianne de l'île Jourdain, dans le Gers. J'aimerais beaucoup entendre dans votre émission Flore Vasseur. C'est une journaliste d'investigation, elle a réalisé en 2021 un documentaire très percutant, Bigger Than Us, pour mettre en lumière une jeunesse engagée qui n'attend pas les autorisations ou les actions des adultes pour se mobiliser. Ces jeunes sont inspirants et bousculent nos peurs et résistances face à l'inaction. Avec deux associations locales, le NI et l'île Jourdain en transition, nous organisons la projection de ce film vendredi 4 avril à l'île Jourdain pour inviter les jeunes à prendre leur place dans la société. Dans son dernier livre, Et maintenant, que faisons-nous ? Flore Vasseur nous rappelle que si nous ne possédons pas toutes les cartes en main pour être acteurs du changement, nous avons au moins celle de notre humanité. À ce sujet, un grand merci à Cyril Dion qui avait justement introduit ce propos dans sa chronique la semaine dernière et qui vient chaque semaine redonner une flamme à nos luttes. Je vous remercie, au revoir.
Bonjour La Terre au Carré, bonjour à tous. C'est Mathieu. Alors voilà, à propos de l'infraction inéluctable qui exerce les partis d'extrême droite en période de crise, ce que rappelait Cyril Dion tout à l'heure dans sa chronique, il faut absolument voir ou revoir le film d'Alain Resnais qui s'appelle « Mon oncle d'Amérique ». Ou au moins voir la vidéo YouTube qui s'appelle « Leçon de biologie du comportement » qui reprend un extrait du film dans lequel le professeur Laborie nous montre et nous explique les différentes réactions face au stress. Notamment celle qui consiste, quand il n'y a pas d'échappatoire possible, à se battre contre un adversaire pour extérioriser l'énergie négative du stress. Et c'est cette réaction instinctive qui permet, très certainement, enfin c'est mon sentiment, à beaucoup de ne pas somatiser face à ce stress qui nous entoure, notamment le climat, l'effondrement de la biodiversité, les injustices sociales en pagaille, etc. Et quant à faire du faux Beatles, mais pas besoin d'intelligence artificielle les gars. Le groupe Oasis fait ça très bien depuis plus de 30 ans. Bah oui, allez, salut.
Bonjour La Terre au Carré, bonjour Mathieu, bonjour toute l'équipe, c'est Esther de Haute-Éloire. Voilà, je vous appelle pour vous remercier de vos émissions encore et toujours et vous proposer un sujet éventuellement de réflexion. Voilà, il s'agit des ZFE, les fameuses zones à faible émission qui sont un petit peu aussi dans l'actualité en ce moment avec un hashtag gueux qui nous fait beaucoup rire. Une manière de montrer que tous ces sujets-là, écologiques, politiques, économiques et sociaux, sont un peu emmêlés. Hein. Et ça ferait énormément plaisir d'en parler dans La Terre au Carré. À bientôt.
Bonjour, Didier de la Vienne. Près de 9% des émissions mondiales de CO2 proviennent du tourisme. Nous vous invitons à pédaler ces vacances Une journée d'échanges et de rencontres sur le voyage à vélo, dimanche 6 avril, de 10h à 18h à Saugé, près de Montmorillon dans la Vienne. Au programme, des films pour donner envie de voyager à vélo, des tables rondes pour se rencontrer, des ateliers pratiques, réparer son vélo, préparer son voyage, partir avec les enfants à vélo. L'entrée est libre. Plus d'infos sur pédalerservacances.fr.
Et merci pour vos messages 01 56 40 45 45. Merci à Valérie Ayestaraï qui a réalisé cette émission. Anna Massardier qui a préparé le dossier. Fabrice Desmaz à la technique et Vincent Samuel pour les archives de l'INA.